Nouveau vos parents. Mettez-vous à côté, ils peuvent aider pour remplir comme ça. On ne serait pas trop distrait lorsqu'on est ici sur le banc. Souvent, on est un peu distrait. Donc, est-ce qu'il y a une place? Marc, il y a une place là-bas à côté de tes parents? Marc, tu m'entends? Tu m'entends pas. Marc, je suis là. Dan! Je disais Marc, excuse-moi Dan. Donc, là, va là-bas, comme ça. Mathias, toi, tu as papa là-bas, mais maman, elle n'est pas là. Elle est à l'étage. Tu sais pas. Maman, elle est là. Tachana, tu es là? Elle est à l'étage, ça va. Mais toi, tu peux rester là. OK. Donc, les grands, donc Paul, Joachim, Diego, je compte sur vous pour aider les autres, ne pas les distraire, chers amis. OK. Vous avez ici sur la feuille quelques questions. Ce que j'ai dit la fois dernière, ça compte encore pour cette fois-ci. En fait, le mieux, c'est d'écouter d'abord, écouter la prédication pour pouvoir répondre à ces questions plutôt que d'aller tout de suite vers les mots mêlés en disant ça c'est la partie amusante, je vais faire ça. Non, écoutez bien et puis répondez aux questions au fur et à mesure. Ça va, on va prier ensemble avant d'aller plus loin. Vous allez voir sur le dos de votre feuillet ici un plan qui vous aide à suivre, un plan assez simple de ce que nous espérons voir ensemble. Donc, je vous invite à la prière. Tu demandes un bic, tu demandes à la fin, il n'y en avait pas assez. On peut prendre une feuille de quelqu'un pour aller les copier à l'étage si nécessaire. Non, c'est bon. Nelly, tu persévères sans feuille. Ça va? Très bien. Alors, tout le monde est prêt? On va prier ensemble, chers amis. Prions. Te louons notre Père, en effet, que Jésus Christ est notre sagesse. Et nous te demandons que tu te révèles à nous aujourd'hui à travers ce texte dans l'évangile de Matthieu, que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions contempler la gloire et la majesté de Jésus-Christ et que nous puissions nous tourner vers toi et cela parce que toi seul tu en es digne. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer en reprenant un peu un portrait de ces deux personnages déjà présentés à nous. Le premier, c'était ce prophète d'Israël, mais prophète malgré lui. Dieu l'avait chargé d'aller à Ninive pour appeler les Ninivites à la repentance. Dieu avait vu leur méchanceté et par conséquent, son jugement pesait sur eux, mais dans sa grâce, il envoie Jonas pour les avertir. Mais Jonas, si on connaît l'histoire, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas que Dieu fasse grâce à ces Ninivites. Il cherche plutôt leur condamnation, car après tout, il s'agit d'un peuple païen qui sont des grands pécheurs. Et donc, lui, il part dans la direction opposée de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais Dieu poursuit Jonas. Les marins du navire, à la demande de Jonas, le jettent par-dessus bord. Il plonge dans l'eau. Il y a ce grand poisson qu'il avale, dans lequel il reste 3 jours et 3 nuits. Ici, je pense que c'est utile de souligner à ce stade qu'il s'agit, lorsqu'on dit 3 jours et 3 nuits, d'un idiome sémitique qui signifie une période qui s'étendait sur 3 jours. Non pas donc il y avait littéralement 72 heures où il y était, mais il entrait un jour, il est resté pour un autre jour, il est sorti le 3e jour. Même si c'est marqué 3 jours et 3 nuits, dans le contexte, cette expression signifie cela. Évidemment, cela a de l'importance lorsqu'on fait le lien avec Jésus mort et ressuscité. Jonas, donc, il est sauvé. Mais lorsqu'il passe à Ninive, ce qu'il craignait arrive. Les Ninivites se repentent, se tournent vers le Seigneur. Cette nation de païens qui n'ont pas le moindre regard pour Dieu, pour la justice, qui pratiquent des choses abominables, ils se repentent. Et Jonas, il rouspète. L'apitoiement de soi est au menu à ce moment-là pour Jonas. C'est le prophète malgré lui, le prophète grincheux, peu exemplaire, concerné d'abord de sa propre réputation, de son confort à lui. Et pourtant, c'est à travers lui, à travers cette campagne d'évangélisation à Ninive, que Dieu opère l'un des plus grands réveils de l'histoire. La deuxième personne que nous avons vue, c'est Salomon, le roi. Lui qui, lorsque Dieu lui demandait ce qu'il désirait que Dieu lui accorde, il répond qu'il aimerait la sagesse, le discernement, pour que le peuple qu'il dirige sache discerner entre le bien et le mal. Et Dieu lui accorde donc cette prière. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, nous dit 1 Roi, chapitre 5. Un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse de l'Égypte. Il a prononcé, nous dit toujours 1 Roi chapitre 5, 3000 maximes et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé des arbres, donc scientifiques, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé des bêtes, des oiseaux, des bestioles, et des poissons, des gens de tous les peuples envoyés par tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon. Venez écouter cette sagesse. Son royaume, donc, devient impressionnant, le royaume de Salomon, ainsi que sa richesse. Et le résumé que donne 1 Roi chapitre 10 que nous avons lu était celui-ci. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde, verset 24, cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Donc ce n'est pas de surprise d'apprendre que la reine de Saba, ou Séba, ou du Midi, ça dépend des différentes traductions, c'est probablement au nord d'Afrique, en Éthiopie, ou bien au sud de la péninsule arabique, au Yémen d'aujourd'hui, on n'est pas certain. Mais cette reine du Saba entend parler de la splendeur de Salomon. Et elle cherche à son tour à l'honorer avec une visite. Elle n'est pas déçue de ce qu'elle voit lorsqu'elle y arrive, ni de ce qu'elle entend lorsque Salomon commence à parler. Elle termine sa visite en glorifiant Dieu, le Dieu d'Israël, en offrant une immense quantité d'or et une très grande quantité de parfums et de pierres précieuses. Il n'arrivera, disait le texte, plus jamais une aussi grande quantité de parfums et épices que celle que la reine de Saba offrit au roi Salomon. Donc deux personnages fort différents, Jonas et Salomon, mais tous les deux utilisés par Dieu pour que des peuples lointains, loin du Dieu d'Israël, viennent à lui. Et Jésus, dans notre texte d'aujourd'hui, peut-être on peut le remettre, verset 41, 42, que dit-il ? Voici qu'il y a ici plus que Jonas. Voici qu'il y a ici plus que Salomon. Il parle de lui-même. Mais dans quel objectif dit-il cela ? Pour souligner que si après la prédication de Jonas, les Ninivites se sont tournés vers Dieu, à combien plus forte raison les Israélites, à l'époque de Jésus, auraient dû se tourner vers lui. Si la reine de Saba est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, à combien plus forte raison ils devaient se mettre à écouter Jésus, à peser ce qu'il a dit, au lieu de chercher à piéger Jésus. Pourquoi ? Car ici, il y a plus que Jonas, plus que Salomon. Et évidemment, cela nous pousse à réfléchir par rapport à notre propre réponse à Jésus-Christ ce matin. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on pose la question, qu'est-ce qui provoque ces remarques probantes de Jésus à son sujet ? Et ici, il s'agit d'un conflit déjà présent de manière grandissante dans cet évangile de Matthieu, entre Jésus et les responsables religieux de l'époque, les pharisiens et les scribes. Mais notons que Jésus, ici, ne limite pas ce conflit rien qu'à eux. Non, il parle, verset 39, d'une génération mauvaise et adultère qui recherche un signe. Quelle est la caractéristique de cette génération mauvaise à l'opposé de Jésus ? Adultère. Ils ont abandonné Dieu pour d'autres petits dieux qui ne le sont pas pour finir. Verset 38, les pharisiens et les scribes disent par conséquence à Jésus ceci, nous voudrions voir un signe de ta part. C'est la demande d'un signe. Et peut-être on se dit, est-ce aussi mauvais que cela, une telle demande? Après tout, il se peut que vous souhaitiez ce matin la même chose. Dieu qui démontre de manière définitive à vous personnellement que oui, il est là, qu'il existe, qu'il prend soin de vous. Dieu, s'il est Dieu, n'est-il pas capable de faire un tel signe pour vous aujourd'hui? S'il ne veut pas en faire un, est-ce parce qu'il n'en est pas capable pour finir? Mais est-ce que vous avez réfléchi à ce qui se passera si Dieu répondait à toutes nos requêtes pour de telles démonstrations de son pouvoir? Premièrement, il deviendra notre petite poupée à notre service. Moi, je demande un signe, moi, je demande un signe, moi, je demande un signe, moi, je demande un signe. Il ne fait que nous donner des signes différents. Il est notre Dieu dans notre poche. Mais deuxièmement, encore plus important, est-ce pour autant, s'il nous donnait un signe, que nous croirons en lui? Le présupposé de ce monde incrédule, c'est qu'il manque de preuves pour l'existence et la bonté de Dieu. Mais réfléchissons, chers amis. Depuis le chapitre 8 de Matthieu, on arrive maintenant à la fin du chapitre 12, là où on termine notre série dans l'évangile de Matthieu. Encore une prédication la semaine prochaine et puis on termine. Depuis le chapitre 8, qu'avons-nous l'occasion d'observer ensemble? Début du chapitre 8 et suivant. Maintenant, je ne vais pas donner les références. Il guérit un lépreux, un homme paralysé par une parole seulement. Deuxièmement, il guérit la belle-mère de Pierre, alitée d'une forte fièvre. Il chasse les esprits mauvais. Il guérit, dit le texte, tous les malades à Capernaum. Il calme la tempête. Il guérit un autre paralysé, il ressuscite une fille de Jaïrus, il guérit une femme accablée depuis 10 ans d'une maladie, d'une perte de sang, il guérit un homme avec la main paralysée, il guérit encore tous les malades de la région, il guérit un homme aveugle et muet. Donc cela fait 9 miracles, précisé de manière individuelle, sans compter les miracles de groupe, lorsqu'il s'est écrit qu'il guérissait tous les malades. Donc des signes, chers amis, des miracles, il y en avait. Mais y avait-il de foi?
Les preuves, voyez-vous, il y en a. La demande fait preuve, non pas de foi, mais d'un cœur endurci. Un autre miracle sous le coup à leur demande ne changera rien. Ils sont décidés d'avance que Jésus ne peut pas venir de Dieu. Ils ne sont pas intéressés à abandonner leur idolâtrie. Eux se positionnent toujours au-dessus de Jésus, comme si eux veulent évaluer l'authenticité du ministère de Jésus. Eux, ils sont au-dessus de lui. Mais Jésus refuse de jouer le jeu. Il ne joue pas, non, le nôtre non plus, chers amis. Imaginons maintenant que nous sortons de cette pièce après le culte et nous découvrons dans le ciel un grand signe, en grandes lettres pour vous personnellement. Et c'est écrit, c'est Jésus, je suis le maître de l'univers, croyez-moi. Ok? Vous pensez que cela provoquera de la repentance de votre part? Non, non. Car ce qui empêche la foi n'est pas une absence de preuves. Ce qui empêche la foi, c'est le cœur humain. Par contre, Jésus leur promet, vous voyez, un signe qui, selon leurs critères, n'en est pas un. Il leur dit, au verset 40, « Il ne leur sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Alors là, de quel signe s'agit-il? De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le signe, c'est ce qui arrivera à Jésus plus tard aux mains de cette génération adultère. Sa mort sur une croix, son ensevelissement et ensuite sa résurrection. 3 jours et 3 nuits, c'est-à-dire donc un temps qui s'étend sur 3 jours de 24 heures, non pas forcément la totalité de ces 3 jours. Il est enseveli le vendredi, fin d'après-midi, il est resté le samedi, il est ressuscité le dimanche matin, le 3e jour. Mais ce signe, pour des incrédules, ne va pas susciter la foi. Ici, on pense à ce que Abraham disait à Lazare, d'après Jésus, Luc chapitre 16, verset 31, que disait-il à Abraham? « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Comme disait l'apôtre Paul, premier chapitre aux Corinthiens, les Juifs réclament des signes miraculeux, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Ils refusent de voir ce que signifie ce signe-là. Tellement fiers de ce qu'eux, ils cherchaient, ils s'écartent du message d'un sauveur en croix. Mais pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, bien sûr, la croix de Christ, ce signe de Jonas, n'est pas un scandale, ni une folie, mais la puissance et la sagesse de Dieu. C'est le plus grand signe qu'il n'y a jamais eu dans notre histoire. Alors hier, chers amis, je suppose que vous le savez, cela faisait 50 ans depuis l'alunissage d'Apollo 11, le premier pas humain sur la Lune. Le module lunaire atterrissait et Armstrong disait « The Eagle has landed ». The Eagle, c'était le nom du module lunaire qui atterrissait. Un petit pas pour l'homme, souvenons-nous, un bond de géant
pour l'humanité, sauf qu'il le disait en anglais.
Et c'est vrai, n'est-ce pas cela? Peut-être on oublie aujourd'hui à quel point cela semblait être un exploit extraordinaire. Mais j'ai appris cette semaine que le président Nixon, lors du retour des astronautes, les rendait visite. On va voir ici l'image sur l'écran.
Ah, de nouveau, pardon, que le... est-ce qu'on a quelqu'un pour les... la lumière ici? Très bien. On le voit ici, Nixon, avec les trois astronautes, ici, dans leur capsule.
Ils devaient leur parler à travers une vitre, car au début, ils étaient encastrés dans ce lieu décontaminé pour vérifier qu'ils n'apportaient rien de malsain de la Lune.
Un virus ou un autre. Merci, mes amis.
Très bien. Alors, vous savez ce que Nixon a dit? La première chose qu'il a dit à ces trois astronautes ici rassemblés, c'est la semaine la plus formidable de l'histoire du monde depuis la création. C'est la semaine la plus formidable de l'histoire du monde depuis la création.
Ok, pour l'image. Merci, mes amis. On peut remettre la lumière.
On peut comprendre son hyperbole, si vous voulez, qu'il exagérait quand même un peu dans ses propos. Mais toutefois, l'exploit que cela représente reste infiniment petit par rapport au moment où le créateur de l'univers tout entier, non seulement la Lune, mais tout l'univers, le moment où lui décide de devenir homme, visiter notre monde, et ensuite mourir sur une croix, portant sur lui le péché du monde entier et ressuscitant trois jours plus tard. Cela nous permet tous d'atteindre un nouveau cosmos pour l'éternité, la nouvelle création. Donc désolé Richard, mais c'est le jour et la nuit, ce qui se passe là par rapport à ce qui s'est passé lorsque Jésus a effectué le signe de Jonas. D'ailleurs, la plaque de Anderson et Aldrin que eux ils ont laissé sur la Lune, de nouveau ici maintenant, on peut de nouveau projeter le slide suivant, reconnaissait du moins implicitement l'importance de Jésus-Christ. Ici c'est écrit en anglais, mais je vais vous le lire en français. Ici, des hommes de la planète Terre ont pour la première fois posé le pied sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité. Voici ce qui est écrit, donc je suppose que cette plaque est toujours sur la Lune, au cas où on le découvre et on ne vient pas de la Terre. Super, on peut de nouveau passer au point suivant. On peut remettre la lumière à nos amis. La venue de Jésus-Christ a permis la paix avec Dieu pour toute l'humanité. Et c'est la vraie fondation pour trouver la paix entre des hommes pécheurs. Ça, ils n'ont pas écrit sur la plaque. Mais néanmoins, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Voici donc le signe de Jonas offert par Jésus à la génération du peuple d'Israël lors de son ministère terrestre. C'est le même signe qu'il nous offre encore aujourd'hui. Alors, qu'allons-nous faire à la lumière de ce signe, nous, ici rassemblés, 2019 juillet, 50 ans plus tard, aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire au sujet de ce signe-là? Et pour nous aider à savoir ce qu'il faut faire, je me sers maintenant de quatre mots. Chacun de ces mots propose quatre pistes pour nous exhorter à réfléchir ici ce matin. Le premier mot, c'est unique. Unique. C'est important de commencer ici et souligner à quel point Jésus se met dans une catégorie tout à fait à part.
plus grand que le prophète Jonas, plus grand que le roi Salomon, plus grand, d'après Matthieu chapitre 12, qu'on a déjà vu, que les prêtres, lorsque eux, ils mangeaient le pain consacré, que uniquement les prêtres pouvaient manger, plus grand que Moïse, qui a écrit la loi de Dieu, car Jésus est au-dessus de la loi de Moïse, plus grand que le sabbat, car il est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, celui qui a toute l'autorité de Dieu, il est unique. N'oublions pas que si ce que lui il dit à son sujet n'est pas vrai, ce que Jésus dit est terriblement trompeur pour les hommes. Il faut souligner que Jésus fait preuve ici d'une très haute opinion de lui-même, n'est-ce pas? Si moi je vous disais ce matin en me mettant debout, écoutez bien ce que je vais vous dire, qu'aujourd'hui, il y a plus que l'apôtre Paul, vous savez, plus que l'apôtre Jean, okay? Comment vous allez réagir à cela? Vous allez dire de moi, je l'espère, mais il se prend pour qui? Celui-là, cherchant une autre église. Oui, ce serait juste. Je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas vrai. Jésus peut le dire parce que c'est vrai. Et ce n'est pas un manque d'humilité de sa part. Non, son humilité se manifeste par ses actes malgré son importance. Il est doux et humble de cœur, nous avons déjà appris. Car celui aussi grand que Jésus est en même temps celui qui ne brise pas le roseau qui se ploie. C'est une combinaison très rare, ça, chers amis. Quelqu'un qui a une haute opinion de soi et une humilité frappante en se donnant pour les autres. Normalement, ces qualités-là ne viennent pas ensemble. Celui qui a une haute opinion de soi n'est pas reconnu pour son humilité. Et celui qui est reconnu pour son humilité n'est pas reconnu pour être quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même. Jésus combine les deux. Il est le plus grand qui ait jamais existé. Et en même temps, il est humble et doux. Jésus est unique. Unique. Donc ne faisons pas de Jésus, chers amis, un autre prétendant religieux. Un autre qui offre un chemin vers Dieu parmi d'autres. Non, ce que Jésus offre est unique, car lui, il est unique. Ce n'est pas qu'il nous indique le chemin, c'est qu'il est lui-même le chemin. Le signe qu'il donne, c'est lui-même, c'est sa propre mort et résurrection. Ne nous trompons pas en ce qui concerne son identité. Les preuves, les signes sont là. Et donc, j'aimerais vous dire que peu importe votre tradition religieuse jusque-là, peu importe peut-être votre esprit cartésien que vous réclamez avec fierté, peu importe peut-être vos présupposés négatifs quant à la foi chrétienne, parce que vous avez vécu des mauvaises choses à un moment donné, il faut faire face à Jésus. Il est unique. Au-dessus de tout autre. Premier mot. Le deuxième mot que j'emploie pour nous aider, c'est bien entendu repentance. Repentance. Ça, c'est le mot explicitement utilisé par Jésus lui-même quand les Ninivites, face au message apporté par Jonas, se sont repentis. Et la reine du Midi s'est déplacée loin pour voir Salomon, et la réponse appropriée face à Jésus devrait donc être la repentance. C'est-à-dire que nous devons nous arrêter, faire demi-tour, comme Philippe nous a dit, et suivre Jésus. Voir qu'il est le roi divin qui s'est donné pour nous sur une croix, qui règne aujourd'hui au ciel, et qui nous demande de le suivre. Il ne suffit pas de dire, comme au Tour de France, peut-être on peut mettre l'image suivante. J'ai déjà dit que je suis un fan du Tour, même s'ils sont tous drogués. Mais moi j'aime, tu vois, on voit mal ici.
Hop, c'est, moi je vais...
Ici on a des coureurs qui montent. Et ici, c'est le Tourmalet d'hier. Ici, les spectateurs qui applaudissent, qui les encouragent. Et nous pouvons dire que je suis comme un spectateur avec Jésus. Je suis un fan de Jésus. Je viens à l'église, savez-vous. J'admire quand il passe. J'applaudis. Je suis peut-être reconnaissant pour ce que lui, il a fait. Mais ça ne suffit pas. Il faut arrêter d'être spectateur. Et il faut se mettre dans son équipe pour souffrir en montant la colline avec lui, pour être à son service. C'est bon, mes amis, de nouveau, on peut remettre la lumière si vous voulez bien. Juste celle-là. Ça, là, on peut laisser Benedict comme ça, on le change chaque fois. Ça, si vous voulez, c'est la différence donc, entre un spectateur et un membre de l'équipe. Nous pouvons applaudir, nous pouvons apprécier le champion, nous pouvons admirer ses qualités, mais ensuite nous rentrons chez nous. Et de lundi à samedi, rien ne change. Jésus nous invite à mettre le maillot de son équipe, à le suivre, à tout donner pour sa cause, à suivre sa rue. Si on ne le fait pas, on aura, savez-vous, les Ninivites à côté de nous lors du jugement. C'est ça ce que Jésus dit. Eux, ils vont dire, ah, attendez, les personnes ici de Woluwe. Nous, nous avons pris au sérieux Jonas et son message lorsqu'il est venu. Et vous, vous décidez de rentrer chez vous et vous comporter comme si rien n'a été. Qu'est-ce qui vous prend, les personnes de cette église de Woluwe? Ici, vous avez affaire à Jésus. Nous, c'était que Jonas, ce prophète malgré lui. Vous avez affaire à Jésus. Repentons-nous. Se cacher derrière, tu t'excuses pour ne pas suivre Jésus-Christ, est ridicule, chers amis. Peut-être nous réclamons notre culture pour écarter les demandes de Jésus sur notre vie. Mais savez-vous, les Ninivites avaient leur culture également. Ça ne les a pas empêchés à suivre Jésus. Peut-être nous pensons que c'est trop gênant de suivre Jésus, décevoir peut-être nos parents, notre employeur, si on s'affiche trop clairement chrétien, on n'a pas envie de faire ça. Mais qu'est-ce qui arrivera lors du jugement? La reine du midi nous dira, je me suis déplacé d'Éthiopie pour aller voir Salomon. Il faut laisser ce qu'on aime, il faut suivre Jésus. Nous avons chanté ce matin, ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout mon péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Deuxième mot alors, c'est repentance. Troisième mot, c'est privilège. Privilège. Quand éventuellement nous suivons Jésus ici ce matin, et toutefois dans la vie de tous les jours, avec les soucis qui préoccupent notre vie, peut-être des finances un peu serrées pendant les vacances, peut-être la politique qui nous déçoit, peut-être les voisins avec qui on a des soucis, la santé qui ne va pas bien, peut-être nous oublions à quel point nous sommes privilégiés de connaître Jésus-Christ, de comprendre la portée du signe de Jonas, la mort et la résurrection de Jésus qui garantit notre sort éternel. Peut-être nous sommes tentés par les plaisirs de ce monde actuellement. Les richesses, le sexe, le pouvoir, la réussite. Et même si nous reconnaissons formellement Jésus comme notre roi, notre sauveur, dans notre cas, nous nous éloignons petit à petit de lui et nous cherchons un épanouissement dans cette vie
Si. Et ce texte ce matin nous rappelle à l'ordre de ne pas minimiser l'importance de ce que nous avons en Christ. Pas minimiser les richesses de connaître Christ, mais de contempler le privilège immense de le connaître. En 1992, il y avait une femme américaine qui se trouvait dans un petit magasin en Californie en train de chercher un cadeau pour une amie. Petite boutique d'articles d'occasion gérée au profit des œuvres charitables. Et là, il y avait une peinture sur une grande toile. Elle aimait peindre elle-même cette peinture, mais elle voulait quelque chose qui pouvait convenir pour son amie. Et donc elle offrait 5 dollars. Apparemment, c'était vendu pour 8 dollars, mais ils se sont mis d'accord pour 5 dollars parce que le type qui tenait le magasin voulait s'en débarrasser également. L'ami pour qui elle a acheté cette peinture l'a refusé, ce cadeau, parce que, en fait, la toilette, c'était trop grand pour être chez elle. Et donc, cette femme, Terry Horton, elle s'appelle, apparemment, elle est toujours en vie, elle essayait par la suite de vider son grenier. Et elle avait donc un vide-grenier dans la rue. Et à ce moment-là, un amateur de l'art lui dit: « Savez-vous que c'est possible que vous avez ici une œuvre authentique de Jackson Pollock, l'un des peintres les plus reconnus de l'époque moderne ?» Et tout d'un coup, après vérification, la toile vaut des millions. Elle recevait une offre directement de 2 millions d'euros pour ce qu'elle avait acheté pour 5 dollars. Merci, c'est bon. Il se peut que c'est ainsi, chers amis, pour votre foi chrétienne. Vous l'avez, oui, mais vous ignorez totalement sa juste valeur. Ici, c'est une occasion de ne plus minimiser votre foi chrétienne, mais de la chérir, de la mettre en œuvre. Dans votre vie. J'ai parlé hier à quelqu'un qui a plusieurs enfants et l'un de ses enfants élevé chrétien, toujours croyant, a étudié 10 ans à Louvain-la-Neuve. Il termine son doctorat à Louvain-la-Neuve actuellement. Mais pendant toutes ces 10 années à Louvain-la-Neuve en étudiant, il n'a pas du tout été engagé dans sa foi. Au lieu de s'investir, au lieu de chercher à être impliqué dans une nouvelle implantation telle que Roby veut lancer à Louvain-la-Neuve, au lieu de tisser des liens avec d'autres croyants, s'impliquer dans un groupe chrétien tel que les groupes bibliques universitaires, être actif pendant sa jeunesse pour Jésus-Christ, ces 10 dernières années ont été gaspillées d'un point de vue de sa foi. Alors, vu les jeunes ici présents, vous qui pensez que ce que le monde peut m'offrir est plus intéressant ultimement de ce que Jésus-Christ peut m'offrir, vous qui pensez que, bien sûr, je suis chrétien, mais je veux faire de grandes choses dans ma vie, faites attention, chers amis, de ne pas oublier le privilège immense de connaître Jésus-Christ et mettez votre vie à son service. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que votre vie soit consacrée à Jésus-Christ, saisissant le privilège qui est le nôtre. Pendant cet été, ne glissons pas l'erreur tout d'un coup de se dire « Oh, c'est vacances, oh, je vais me calmer un peu, point de vue de ma foi. » L'église locale de temps en temps, mais pas régulièrement, pas impliqué, pas au service. Reprendre ses habitudes, c'est toujours plus difficile. Parce que dès qu'on commence à changer nos habitudes pour une foi chrétienne juste un peu plus agréable, on s'y habitue. Bon, on se dit, bah, écoute, pour finir, le monde, c'est assez plaisant. Bien sûr! Nous sommes attirés toujours par les désirs de notre cœur, par les richesses de ce monde. Soyons avertis. Et donc,
soyons sérieux, saisissons le privilège qui est le nôtre. Le dernier mot, c'est plus court, chers amis, parce que le dernier mot parle de ce que Jésus dit dans les trois derniers versets de notre passage. Le dernier mot, c'est neutralité. Neutralité. Qu'après cet appel à la repentance, au verset 43, Jésus revient vers cette histoire, une histoire des esprits impurs. C'est lié à ce que nous avons vu la semaine dernière, quand là, il y avait effectivement un esprit impur qui est sorti d'un homme qui était aveugle et muet. Mais Jésus, ici, il avertit qu'après être sorti, il y a un danger, selon Jésus, qu'il réessayerait le mauvais esprit de rentrer dedans en amenant avec lui cet autre esprit. Et il conclut, dans ce cas-là, verset 45, « La dernière condition de cet homme est pire que la première. » Et puis, Jésus termine ses propos ici en disant « Il en sera de même pour cette génération mauvaise. » Donc, ce n'est pas un avertissement à l'homme muet et aveugle qui est maintenant guéri, mais c'est un avertissement plus large à cette génération adultère de ne pas croire qu'ils peuvent être neutres à propos de Jésus. Comme Jésus a déjà dit, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Neutre au sujet de Jésus n'est pas une possibilité. Ne soyons pas donc ceux qui disent « Merci, je ne vais rien faire par rapport à la foi » parce que petit à petit, notre situation va s'empirer. Devons-nous donner à Jésus-Christ. Voici donc, il y a plus que Jonas, plus que Salomon. Nous avons commencé en parlant de deux personnes et nous terminons avec une seule personne. Jésus-Christ. Et donc, nous avons chanté à juste titre, « Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. » Le dernier chant que nous avons chanté ce matin va dire ceci, « Que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est toute ma gloire. » Dieu seul est toute ma gloire. Est-ce que vous pouvez dire cela, chers amis? Que ça soit sur notre bouche tout au long de cette semaine, tout au long de cet été, tout au long de notre vie. Prions ensemble.